Seigneur Jésus. Amen. Béni soit le Seigneur. Loué soit l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. En cherchant un sujet de partage pour cet après-midi, je pensais à un partage téléphonique que j'ai eu avec une personne qui se préparait à partir à Israël. Et je me suis dit au fond de moi-même, un de ces jours, j'aimerais bien vraiment y aller, ça serait super. Bon, c'est un budget, mais je pense que c'est quelque chose qui peut interpeller pas mal. Et moi, il y a des choses dont je voudrais, comment dire, en avoir le cœur net. J'aimerais aller dans les endroits où Jésus est allé, non pas pour dire « Ah, j'ai marché sur les lieux où Jésus a marché », non, c'est pas ça du tout. Je serais tenté de prêcher dans un endroit où Jésus a prêché pour voir la sono. Je me dis, Seigneur, il prêchait, des milliers de personnes, il l'entendait, il n'avait pas de micro, il n'avait pas, et on l'entendait. Et à quelque part, il y a des choses qu'on ne peut pas en réalité visualiser comme ça, et des choses sur lesquelles on passe à côté souvent quand on lit la parole de Dieu parce qu'on ne connaît pas les lieux. Et en lisant les textes des évangiles, j'analysais ces moments particuliers que Jésus passait avec ses disciples. Et il aimait être dans des jardins, dans des lieux où c'était au calme, où on respirait la nature à la belle étoile, on pourrait dire. Hein, c'est magnifique. Et pourtant, parmi tous les textes que j'ai pu lire, il y en avait un qui a particulièrement interpellé mon cœur parce que je n'avais jamais véritablement fait attention à cela. Et ce texte se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, le verset 41, si on peut le faire apparaître. C'est la première phrase. Regardez bien. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Point. Point. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et en analysant cela, je me suis dit, Seigneur, dans ta parole, il y a des pépites, il y a des pierres précieuses, il y a des choses où souvent on est là, on passe, on repasse et on ne s'en rend pas compte. Et en lisant ce texte, je me suis rendu compte que la parole, elle avait été toujours là, cette pépite, elle était là, mais seulement mon cœur n'était pas prêt à le découvrir, à le comprendre, à le saisir. Et je crois que le Seigneur a pour nous en réserve dans sa parole des pierres précieuses. Il faut aussi qu'on soit prêt à dire, Seigneur, aujourd'hui, ben, je vais fouiller dans ta parole, je vais trouver des pierres précieuses. Vous avez déjà vu quelqu'un chercher avec, vous savez, ces détecteurs de métaux et chercher de l'or, hein? Alors, vous savez, parfois, puisque ça sonne dès que c'est du métal, des fois, c'est juste une boîte à conserve qui a été cachée dans le... On fouille pour ne pas déranger, on ne sait pas qui l'a laissé là, si c'était César quand il est passé dans le coin, puisqu'il semblerait qu'il est passé par là. Hein. Alors, je ne sais pas s'il mangeait des raviolis ou quoi que ce soit en boîte, mais il a dû cacher ça pour ne pas montrer qu'il n'avait pas mis ça à la poubelle. Mais parfois, on découvre des choses particulières. Dans ce texte, ce qui m'a interpellé, c'est le contraste, le paradoxe entre le fait du lieu où Jésus a été crucifié et le jardin. Le lieu où Jésus a été crucifié, il nous parle de sa passion. Il nous parle de ses angoisses, il nous parle de ses souffrances physiques, il nous parle du sang, il nous parle des blessures. Et puis à côté, en contraste complet, il y a un jardin, ses fleurs, ses parfums, ses fruits, toute sa beauté incomparable de l'éveil de la nature et du printemps. Je vous rappelle qu'on était au printemps. Quelle différence flagrante entre un lieu de souffrance et un lieu aussi idyllique. Je ne pense pas que le lieu dit du crâne était un lieu où les gens allaient le dimanche se retrouver en famille pour partager un bon moment de pique-nique. Dans les voyages que j'ai pu faire, parfois on m'a amené visiter des endroits très, très particuliers, très beaux. Et en général, quand quelqu'un vient, on leur amène visiter des beaux lieux. Vous êtes d'accord ? Et qui oserait amener quelqu'un dans un lieu où en réalité on condamnait à mort, on mettait quelqu'un sur une croix, on le faisait souffrir, on ne le ramènerait pas quelqu'un, à moins qu'on veut véritablement le sensibiliser à quelque chose. Mais à choisir, on préfère un joli parc avec des fleurs qu'un lieu où en effet du sang a coulé, la souffrance. Peut-être il y a encore quelqu'un qui est suspendu parce qu'il est en train de régler ses comptes avec la loi. C'est pas là qu'on va, non? On se dit non, si je dois aller quelque part, je vais ailleurs. Et ce qui m'a interpellé, c'est cette proximité entre le lieu du sacrifice de Christ et le jardin. Et j'en ai fait un petit parallèle que je vous partage tout simplement. Quel est le message pour la vie spirituelle du chrétien? Et je dirais que là où la croix est plantée, il y a un jardin. En réalité, là où il n'y a pas de croix, il n'y a pas de fleurs, ni de parfums, ni de fruits. Jésus dira sans moi, vous ne pouvez rien faire. Certes, c'est pour nous étonnant de comprendre qu'il y a une telle proximité entre la souffrance et le bonheur. Mais pourtant, notre bonheur réside dans la souffrance que Christ a pu subir. Si nous avons le droit d'accéder à ce jardin de délices, c'est parce que lui, il a accepté de prendre ce lieu où il y avait la souffrance, là où il y avait cette croix plantée, Jésus a accepté de prendre ses parts pour que nous n'ayons pas à la vivre. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 17, il est écrit ceci: Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Où la croix de Christ n'est pas, il y a peut-être des feuilles, mais pas des fruits. Il y a peut-être certains professionnalismes, mais pas de parfum. Il y a des formes de piété biblique, mais ni la vie, ni les fleurs, ni la grâce, ni la beauté de l'Éternel. Il y a une relation particulière, puisque vous comprenez bien, comme il est écrit dans ce texte, il y avait un jardin, là où Christ a été crucifié, et on est appelé, nous tous, à répandre en tout lieu l'odeur de la connaissance de Christ. Ça veut dire que notre vie ne peut pas se faire autrement qu'en parallèle et en proximité de cette œuvre de la croix. Rien de notre vie peut émaner un parfum agréable, le parfum de Christ, si en réalité nous ne sommes pas véritablement accolés à cette œuvre de la croix et nous ne restons pas nous-mêmes au pied de la croix. En disant: Seigneur, tous les jours j'ai besoin de cette œuvre dans ma vie. Autrement, le parfum que je vais répandre n'est pas un bon parfum. Forcément, il y a un parfum qui dit le texte, et c'est vrai que la première fois qu'on lit 2 Corinthiens, on se dit: qu'est-ce que c'est ce parfum de mort pour ceux qui sont morts, de parfum de vie pour ceux qui sont en vie? C'est qu'en réalité, quand nous marchons comme Dieu nous demande de marcher, à quelque part, on est un témoignage que ce que Dieu propose, ce que Dieu désire pour notre vie, c'est possible, c'est réalisable. Et autant il peut donner envie à ceux qui cherchent la vie de s'approcher de Christ, autant ceux qui ne veulent pas de Christ, forcément, par leur décision, ils sont condamnés, mais c'est leur décision, ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. Quand vous vous parfumez le matin, pour vous, vous le faites pour faire plaisir. C'est juste ou pas? Déjà pour vous faire plaisir à vous-même, mais en même temps pour que ceux qui sont autour de vous, ils se disent: ah, ils sont bons et c'est bien, il prend soin de lui. Et quand on sent pas bon, en général, les gens, ils ont plutôt tendance à nous saluer de loin, d'un petit geste de la main, et en se gardant dans une position où le vent ne risque pas de faire revenir vers eux certaines. Voilà. Où en sommes-nous par rapport à ça? Le parfum de la croix. Deuxième chose, c'est le choix de la croix. Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Deuxième chose. Donc, vous voyez la relation proche entre le beau jardin et le jardin moins beau, mais nécessaire. Choisir la croix. Si d'un côté on veut être au bénéfice de ce beau jardin, de ce plaisir, hier avec mon épouse on a été se promener parce qu'elle m'a dit j'ai vu un jardin, il faut qu'on y aille. Alors on a été se promener, on est passé sortie centre, première sortie tout de suite à gauche, vous avez des parkings et un petit jardin romain, juste à côté du musée. Et on était convaincus qu'on allait faire des kilomètres, je ne sais pas, peut-être on serait arrivé près de la plage et revenu à pied, mais le parcours était très court. Mais on est passé quand même par le petit jardin, très joli, très sympa. Il y a encore des choses à faire, mais c'est vrai que quand on se retrouve dans un jardin qui est bien soigné, on trouve du plaisir, n'est-ce pas? On se dit, il y a de la fraîcheur, c'est un lieu où on pourrait s'arrêter. D'ailleurs, on s'est dit, tiens, c'est sympa pour faire un goûter, c'est sympa pour passer un moment en famille, c'est sympa pour se promener. On cherche des endroits où on peut se sentir bien. Et c'est vrai que dans la présence de Dieu, on se sent bien. N'est-ce pas? Et avec des belles fleurs comme vous, forcément. Et il est question aussi pour nous d'être conscients que tout ne se limite pas à cette partie qui est, oui, glorieuse, merveilleuse, et elle est pour nous. Mais on a aussi une part dans la croix. On ne peut pas dire à Dieu, moi je veux que le beau jardin, garde ta croix pour toi. Jésus dira à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que la croix est dans votre vie? Car vous savez que là où la croix est plantée, là il y a un jardin. Pas de croix, pas de jardin. Soyons pas étonnés des difficultés personnelles, actuelles peut-être. Accepter la croix dans notre vie, cette croix va à l'encontre de nos projets, de nos plans, de nos pensées. Alors forcément, il y a une forme de lutte, de combat. Est-ce que je dois donner ma vie à Christ? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? On est tenté parfois de faire ce qu'on gagne et ce qu'on perd, le plus et le moins, le mieux et le pire. Je me rappelle d'une personne, et je suis certain, vous avez déjà entendu vous aussi cela, qui me disait, vous savez, pasteur, du jour où je donnais mon cœur au Seigneur, ouh, combien de problèmes j'ai eu. Et j'ai dit, tu es étonné? Il dit, non, c'est qu'en réalité, les problèmes, je les avais avant. Seulement, je cohabitais avec les problèmes et je trouvais toujours la manière de m'y accommoder. Aujourd'hui, c'est la même chose, je ne peux plus faire les mêmes compromis avant, donc je suis obligé de faire des choix et ces choix me coûtent. Et je lui dis, une fois que tu as choisi, après je me sens bien. Et en réalité, la croix nous amène à faire des choix, à prendre des décisions, à donner notre cœur. Alors oui, certes, on aurait pu se dire, mais avant. Mais si avant c'était bien, on n'aurait pas eu besoin de salut. Si nous avons besoin du salut, c'est qu'avant on n'était pas si bien que cela. Et il est question pour nous de vivre la croix. Jésus dira en Matthieu chapitre 16 au verset 25, tout de suite après de cette déclaration, si quelqu'un veut venir après moi, il dira, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Vivre la croix. Quelqu'un dit un jour, ne luttez pas avec votre épreuve, acceptez-la. Et ça m'a posé beaucoup de questions, ça m'a fait passer quelques nuits blanches. Seigneur, comment je peux accepter l'épreuve? Seigneur, l'épreuve, je préfère l'éviter. Hein? On se dit, Seigneur, pourquoi vivre des épreuves? Mais en réalité, à quoi sert-il les épreuves? À grandir? Quoi encore? À nous affermir, à nous former, quoi encore? À mieux nous connaître. Donc, à quelque part, malgré qu'on soit réticent, je dirais même pas volontaire, On ne va pas dire, Seigneur, donne-moi aujourd'hui des épreuves, je veux grandir, je veux me connaître, je veux savoir où j'en suis. Non, on dit, Seigneur, s'il te plaît, fais que tout aille bien, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il n'y ait pas de problème. On n'a pas besoin de prier pour les demander, les problèmes, ils viennent tout seuls. Vous avez déjà vu? Mais le gros souci pour nous, c'est quand on n'accepte pas l'épreuve et quand on se bat contre l'épreuve, parce qu'en réalité, cette épreuve, elle est nécessaire. Cette épreuve, elle nous révèle en réalité où nous en sommes, nous, avec notre vie de la croix. Et comme je disais tout à l'heure, on veut souvent prendre les côtés positifs, mais on ne regarde pas les parties qui sont intégrées dans le contrat. Excusez-moi de parler comme ça. Souvent, et j'ai fait cette erreur très jeune, hein, on regardait ce qui nous intéressait et on négligeait le reste. Sauf que le jour où on se trouvait confronté au reste, on se disait, mais ça, je ne l'avais pas vu. Tu n'as pas voulu le voir. Aujourd'hui, maintenant, tu es obligé d'en prendre conscience et de l'assumer parce que ça fait partie. Non ? On prend le côté qui nous plaît et on met de côté le reste. Mais tôt ou tard, tout arrive devant nous et on doit, oui, le vivre. Alors on peut parfois avoir ce sentiment de le subir. Et si on prenait la responsabilité de dire, Seigneur, ok, l'épreuve, elle est là. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? En général, on sort de l'épreuve un peu plus rapidement. Expérience personnelle. Combien de fois j'ai essayé de me rebeller à l'épreuve en disant, Seigneur, celle-ci, elle n'est pas juste, elle n'est pas bonne, c'est pas pour moi, il y a dû une erreur. Je ne sais pas, celui qui a ramené le courrier, il s'est trompé, alors je la renvoie à l'expéditeur, je ne sais pas, fais ce que tu veux, mais tu règles ça, et l'épreuve, elle reste. Et alors, Seigneur, je ne comprends pas, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que je n'ai pas fait, Seigneur? Et après, en réalité, le Seigneur nous montre que l'épreuve, elle est là pour... toutes les raisons que vous avez citées tout à l'heure. Mais cette épreuve, elle commence en œuvre dans notre cœur du moment qu'on l'accepte et on dit, Seigneur. Alors vous savez, moi je compare un peu cette épreuve comme le moment où on va planter la croix, où on va enfoncer au plus profond de notre cœur cette œuvre de la croix. Certes, ça fait mal, certes on n'a pas envie, mais est-ce qu'on a besoin de cette œuvre dans notre cœur? Vous savez, Jésus ne placera pas la croix n'importe où. Il la placera au centre de notre cœur pour être au centre de notre vie, pour être le centre de notre vie. Alors oui, forcément, ce lieu central a beaucoup d'intérêt pour plein de choses. C'est le meilleur lieu. C'est le lieu où nous, on avait prévu de mettre plein de choses qui nous plaisent, qui nous conviennent, qui nous font plaisir, qui nous encouragent. Peut-être même qu'il nous donne de la valeur, il nous valorise. Hein? Mais ça, c'est la place que Dieu veut. Quelle est la place que Christ a dans ta vie? Et si tu devais offrir un jardin au Seigneur, lequel tu servirais au Seigneur, en disant, Seigneur, prends celui de la croix, tu connais déjà les lieux. Ou est-ce que tu penses que le bon jardin, c'est celui qui répand du parfum? Question. Et si c'est le jardin de la croix, est-ce que tu penses que toi, en réalité, tu as le droit d'être dans le bon jardin pendant que lui souffre à la croix? Il y a un souci. Et si justement tu te dis, ben, le beau jardin, c'est pour Christ, puisqu'il a déjà souffert la croix, ben, alors forcément tu dois te dire, le jardin de la croix, maintenant, c'est pour moi, puisqu'il me dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Waouh, Seigneur! Waouh, Seigneur! Un jardin nous amène à l'autre. Le Seigneur est en train de planter sa croix dans votre jardin pour qu'il produise du fruit, du parfum. La volonté de Dieu, c'est que quelque chose naisse. Quand l'hiver arrive, la sève dans les arbres redescend, n'est-ce pas? Et on voit les arbres, il n'y a plus grand-chose dessus. Et on se dit, waouh, c'est joli un petit moment, mais... c'est presque mort. Et pourtant, au plus profond de la terre, cette sève, elle continue à faire un travail de préparation Et souvent, l'œuvre de Dieu se fait en profondeur dans notre vie, même si nous, on ne la voit pas. Et je voudrais vous encourager aujourd'hui. Certes, il y a un moment où l'œuvre de la croix, elle a commencé dans votre vie, et peut-être que vous traversez une période d'hiver, où on a tout perdu. Les feuilles ne sont plus là, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien qui attire ni le regard, ni même la pensée, ni le voyageur qui voudrait trouver un peu d'ombre. Rien. Mais Dieu veut travailler en profondeur dans votre cœur. Parce que qu'est-ce qui se passe après l'hiver ? Ah. Mais vous savez, à ce moment-là, cette sève qui doit remonter amène l'arbre tout à nouveau à devoir laisser cette place à la sève pour qu'elle remonte et qu'elle reprenne la vie. Et la nature en elle-même, même si elle bourgeonne, elle est heureuse, elle redonne de la vie, mais dans la vie, il y a une part de souffrance. Parce que déjà, il y a des personnes qui prennent soin et qui coupent ce qui ne va pas. Alors, est-ce qu'il y a des choses à couper dans notre vie ? Alors, je ne vous fais pas un cours de botanique, j'en suis pas capable. Mais je suis toujours interpellé par tout ce qu'il nous enseigne, la parole de Dieu, pour tout ce que la nature nous dit de Dieu. Et en réalité, il y a des choses dans nos vies où c'est qu'à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a des branches qui sont mortes, il y a des branches qui ont besoin d'être coupées, et que tant qu'elles ne sont pas coupées, elles récupèrent quelque chose qui en effet ne produira pas l'effet qu'on voudrait dans notre vie. Et dire au Seigneur, Seigneur, vas-y, coupe, enlève. Alors certes, vous avez demandé à votre Père Céleste de vous bénir, et voici qu'il vous envoie sa réponse. Vous avez prié pour qu'il change les choses en vous, son action en vous commence ainsi. Il choisit ce chemin, cette circonstance, peut-être même le message d'aujourd'hui, pour vous donner un jardin à votre vie, et ce jardin est le lieu où il a été crucifié. C'est un lieu où lui, il a versé son sang, où il a donné son dernier souffle de vie. Ce même lieu où certains se sont, oui, laissés aller au mépris, à la méchanceté, mais d'autres ont réalisé que c'était le Fils de Dieu. Que faisons-nous cet après-midi ? Comment regardons-nous au Seigneur ? Comme celui qui, encore une fois, est venu dans un jardin où il fallait donner sa vie, ou comme celui qui est le Fils de Dieu et qui a donné sa vie pour nous, pour que nous nous rentrions dans une autre partie de notre vie. Vous savez, souvent on rencontre des personnes qui ont un parcours parfois très difficile, très compliqué. On peut même se dire pourquoi autant de souffrance sur la même personne. Et on pourrait se dire, Seigneur, il y a quelque chose qui n'est pas normal, autant de souffrance sur une personne. Ça vous est arrivé de rencontrer des personnes ou peut-être vous-même vous posez la question de dire, Seigneur, pourquoi autant de souffrance dans ma vie ? Et quelque part, on partage, on participe une petite part à la souffrance de Christ. Et je pense que toute la souffrance qui est la nôtre n'est pas forcément comparable à la sienne puisque lui, il est allé jusqu'au bout des choses. Mais c'est au sein de cette souffrance que Jésus voudrait nous faire connaître, apprécier l'autre partie du jardin. Je vous disais tout à l'heure, j'ai lu ce texte de plusieurs reprises, mais je ne m'étais jamais arrêté dans ce jardin. Et peut-être que dans notre vie, on passe près de la souffrance et on ne voit plus les belles choses que Dieu a prévues pour nous juste à côté. On ne voit pas ce que Dieu a préparé pour nous juste à côté. Nos yeux sont fermés. Nos yeux s'empêchent de reconnaître la volonté de Dieu. Nos yeux s'empêchent de voir ce que Christ a préparé pour vous. Jésus dira quelque chose de particulier en Matthieu chapitre 16, versets 26 et 27. Je termine par cette lecture biblique. Que servait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Que donnerait-on à un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Il y a plusieurs années en arrière, on avait un frère dans l'église en Alsace. Il avait un petit jardin, un petit cropin de terre derrière chez lui, et j'ai jamais vu un jardin aussi soigneux. Il s'allongeait par terre pour couper le gazon. Après avoir passé sa tondeuse, il s'allongeait, il regardait s'il y avait un fil d'herbe qui dépassait. Il était avec les petits ciseaux, et chez lui, c'était une moquette. Je vous assure, le gazon n'était pas coupé trop court, c'était la bonne. C'était un gazon à l'anglaise, on dit ça. Alors c'était English. Il y avait même le thé à 4 heures. Il arrosait avec du thé le truc. Et il était soigneux. Mais vous savez, moi, ce qui m'interpellait, c'est pas le fait de dire ah oh, il perdait du temps. On pourrait se dire il perdait du temps. Pour lui, ce jardin, c'était quelque chose qui lui permettait de prier, de passer du temps dans la présence de Dieu, de s'approcher de Dieu. Et ce jardin, à quelque part, décrivait le soin qu'il avait dans sa relation avec Dieu. Peut-être il y a des choses qu'on fait dans notre vie que les autres ne comprennent pas. Mais ce n'est pas important. Vous ne le faites pas pour les autres, vous le faites pour Dieu et vous le faites pour vous-même. Et peut-être que vous avez un petit bout de terre dans votre cœur qui n'a pas été trop soigné ces derniers temps. Et si vous preniez le temps de le donner au Seigneur en disant, Seigneur, j'aimerais que cette terre qui était desséchée, aride, soit transformée maintenant. Seigneur, mon cœur qui a été aride, qui n'a pas connu peut-être l'amour, il n'a pas connu la joie d'un papa, d'une maman aimante, qui a connu que des souffrances. Seigneur, j'aimerais connaître autre chose dans ma vie. Il y a plusieurs années en arrière, je lisais le témoignage d'un homme qui avait été abandonné par sa mère, abandonné par sa maman. Et il a grandi comme ça, et il est passé de maison d'accueil en maison d'accueil jusqu'à devenir un peu un délinquant, jusqu'à que quelqu'un le prenne sous son aile. C'était un monsieur chrétien et qui lui a donné la possibilité de rencontrer Jésus. Il a donné son cœur au Seigneur et il a fait une école biblique. Il est devenu pasteur. Et un jour, il témoignait, il a rencontré une jeune femme, ils se sont mariés, ils ont fondé leur foyer, et il prêchait l'évangile de tout son cœur. Et il prêchait sur le pardon. Superbe message sur le pardon. J'y étais pas, mais je dis superbe parce que Dieu avait des surprises pour lui. Parce qu'à un certain moment, quand il a fait l'appel pour prier pour les gens qui voulaient vivre le pardon, il y a une femme qui s'est approchée, qui était mal vêtue, quelqu'un qui, oui, vivait un peu comme un SDF. Et cette femme s'approche et lui dit, je suis ta maman. Et à ce moment-là, cet homme, il n'a pas su quoi répondre. Il est parti. Son cœur était complètement bouleversé parce qu'il y arrivait, parce que ben, pour lui, il n'imaginait pas un jour trouver sa mère devant lui. Pour lui, c'était une histoire qui appartenait au passé. Pourtant, une partie de son cœur était restée quand même marquée profondément. Cette partie-là de l'amour d'une mère était devenue un terrain aride, un désert. Il ne pouvait pas parler de l'amour d'une mère parce qu'il ne l'avait pas vécu. Pour lui, c'était difficile. C'était une partie de sa vie qu'il préférait éviter. Et pourtant, ce jour-là, alors que le message était le message du pardon, il était du message à la mise en pratique. Sa mère était devant lui. Quoi faire? Il est parti, il est allé, il s'est caché, il n'en pouvait plus pleurer comme je ne sais pas quoi. Et son épouse est venue voir cette femme, discuter avec elle, et elle apprend que c'est la maman de son mari. Et donc, elle va voir son mari et lui dit, tu sais, on ne peut pas la laisser comme ça. C'est ta maman. Et même si elle t'a abandonné, toi, tu ne peux pas l'abandonner. Et ce jour-là, ils ont pris la maman à la maison. Ils lui ont donné ce qu'elle n'a pas donné à son fils. Et vous savez quoi? Cette femme, elle s'est vraiment convertie. Et elle a été d'une aide et d'un soutien incroyable parce qu'elle est devenue une femme de prière. Elle soutenait dans la prière le ministère de son fils, de sa belle-fille, et Dieu s'est servi d'elle, mais en même temps, Dieu a guéri ce petit morceau de terrain qui avait été ravagé. Je voudrais vous inviter à fermer vos yeux. Et si quelqu'un cet après-midi avait besoin que le terrain de son cœur soit transformé, ce terrain qui est à côté de ce lieu où Christ a sacrifié sa vie, moi je voudrais vous encourager à faire de ce lieu le plus beau des jardins. Que ce soit le lieu où Christ règne, parce qu'en réalité c'est lui qui a tout transformé. Cette partie de votre vie va devenir une fierté parce que Christ a posé ses pieds et il a fait pousser des choses qui ne pouvaient pas pousser. Il vous a redonné du parfum, il vous a redonné de la joie, il a redonné de la vie, il a donné du fruit à quelque chose qui était mort. Mais pour cela, il faut accepter aussi que la croix soit plantée sur ce terrain. Est-ce que quelqu'un cet après-midi voudrait demander au Seigneur de planter sa croix dans son cœur pour que sa vie change? Pour que les parties de sa vie qui ont été abîmées soient réparées. Si quelqu'un le souhaitait, je vous invite juste à lever votre main et je vais prier pour vous. Oui, j'ai vu votre main. Oui, j'ai vu ta main. Oui, j'ai vu votre main. Oui, amen, je vois votre main. Je vois votre main. Je vous invite maintenant à répéter cette prière tout simple avec moi. Père céleste et Dieu de grâce, je viens à toi avec mes blessures, avec mes souffrances, mais aussi avec tous mes péchés, et je te demande pardon. J'ai besoin de faire la paix avec toi. J'ai besoin de vivre le pardon et j'ai besoin aussi de l'accorder, ce pardon. Seigneur, il y a une part de ma vie qui a besoin de l'intervention de celui qui est le divin jardinier. Toi seul peux redonner de la vie à ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je désire que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le pardon et merci parce qu'à partir de ce moment, je suis un enfant de Dieu. Qu'à toi soit toute la gloire, notre Père. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur.